Bonjour mes sœurs, j'apporte les salutations de mes frères et sœurs du Québec et je suis ravie d'être avec vous ce matin. Un de mes romans préférés en grandissant était Anne, la maison au pignon vert. Est-ce que en France ça se lit? Est-ce que quelqu'un le connaît? Oui, ceux qui en connaissent le côté nord-américain, c'est un classique. Et pour celles qui ne le connaissent pas, c'est l'histoire d'une orpheline qui est placée par erreur dans la maison d'une frère et sœur très âgés qui ont besoin d'un jeune homme pour les aider sur la ferme. Alors, ils ne sollicitaient pas une fille, mais plutôt un garçon. Et cette erreur a induit cette jeune fille à une grande peine. Elle avait déjà beaucoup souffert à la main des famille d'accueil, qui l'avait traitée comme une bête de somme. Et lorsqu'elle reçoit l'invitation à venir à la maison au pignon vert, son cœur bondit de joie. Mais assez rapidement, elle découvre que c'était toute une erreur. Imaginez son chagrin et sa déception. Selon ses propres mots, elle était dans les profondeurs du désespoir. Marilla, la femme qui l'a reçue, est une femme âgée très judicieuse. Elle n'a pas beaucoup de patience pour l'agitation émotionnelle de cette jeune fille d'une dizaine, douzaine d'ans qui porte des robes en lambeaux. Mais quand Anne lui demande si elle a déjà été dans les profondeurs du désespoir, Marilla répond non. Le désespoir, c'est tourner le dos à Dieu. Est-ce que vous pensez que ce soit vrai? Est-ce que Marilla a raison? Considérez-vous comme un péché, voire un blasphème, de désespérer de la vie, de mettre Dieu en question? Je vous propose que le psaume 42 et 43, que nous allons découvrir ce matin, offre un correctif nécessaire à Marilla Cuthbert et à tout croyant qui puisse penser que le désespoir est empty. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage avec le psalmiste, fils de Corée, pour découvrir ce que nous devons faire de notre désespoir. Avons-nous le droit de remettre Dieu en question? Lorsque l'affliction et l'opposition semblent briser nos cœurs, pouvons-nous être honnêtes avec Dieu? Pouvons-nous lui dire ce que nous ressentons vraiment? Ou devons-nous faire attention à nos paroles, de peur de provoquer sa colère? Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui? À celles qui traversent les eaux de l'affliction, c'est son jumeau offre une promesse puissante. Puisque Dieu nous accorde sa grâce lorsque nos âmes sont abattues, espérons en lui en attendant son salut. Puisque Dieu nous accorde sa grâce lorsque nos âmes sont abattues, espérons en lui en attendant son salut. Avant de nous lancer dans cette magnifique série de psaumes de lamentation, la première question que peut-être vous devez vous poser est la suivante. Pourquoi enseigner deux psaumes ensemble, 42 et 43? La raison est que la plupart des érudites estiment qu'ils forment une seule unité littéraire. Les deux psaumes vont ensemble. Et voici quelques raisons. De tous les psaumes du livre 2 du psautier, le psautier est divisé en 5. Il y a 5 divisions dans le psautier. 43 est le seul psaume qui n'a pas une attribution à son auteur. Deuxièmement, nous considérons la structure de ce psaume. Et nous pouvons voir que le psaume 42 est naturellement lié au psaume 43. Elle poursuit et complète l'histoire par le chant qui commence dans le psaume 42. La répétition de phrases clés d'un psaume à l'autre donne du poids à cet argument. Par exemple, le verset qui commence par la phrase « Pourquoi t'as battu mon âme ?» apparaît dans le verset 6 et le verset 12 du psaume 42 et ainsi dans le verset 5 du psaume 43. Et le questionnement de l'auteur concernant ses ennemis, pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi, apparaît dans le psaume 42, verset 10, et ensuite dans le psaume 43, verset 2. Pour ces raisons, de nombreux manuscrits médiévaux les avaient liés ensemble, ainsi que des manuscrits hébreux, hébraïques, et les combinent dans un seul psaume. Maintenant, j'aimerais le situer dans son contexte historique. Tout d'abord, l'auteur. Le titre nous indique qu'il s'agit d'un chant des fils de Corée. 11 psaumes sont attribués aux fils de Corée. Qui était-il? Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Oui. Il est descendant d'un cousin de Moïse nommé Corée, qui était à la tête d'une rébellion contre Moïse et Aaron, les deux oint choisis par l'Éternel. Lui et les meneurs ont rassemblé 250 hommes pour se joindre à eux et ils ont été engloutis par le jugement de Dieu. Mais Dieu n'avait pas fini avec les fils de Corée. Le prophète et le juge Samuel est descendant de Corée. Et ce clan devient les porteurs et les gardiens du tabernacle et les grands leaders de la musique chorale et orchestrale au sein du peuple de Dieu et le culte dans le temple. David a formé une organisation élaborée pour le chant, la musique instrumentale et la prophétie par l'intermédiaire de ses hommes, les fils de Corée. En outre, quelques repères géographiques. Nous pouvons voir dans le psaume qu'il met la plume au parchemin loin de sa terre natale, et bien qu'il ait autrefois dirigé le peuple de Dieu dans l'adoration dans le temple, il se trouve maintenant dans une sorte d'exil, près de Mont Hermon, au nord d'Israël, près de la frontière avec la Syrie, dans la région des hauteurs du Golan. Pour celles qui ont visité Israël, peut-être ça vous dit quelque chose. Il est loin de la présence de Dieu centralisée dans le temple, le lieu où réside la Shekinah, la gloire de Dieu, dans le tabernacle, dans le temple. Et il a hâte de retourner pour diriger le peuple de Dieu dans l'adoration. De ma part, j'ai hâte de vous partager le cœur de ce psalmiste alors que nous entrons dans ses souffrances et son espoir. J'ai divisé notre passage en 5 sections. L'âme assoiffée, l'âme déprimée, l'âme opprimée, l'âme justifiée et l'âme joyeuse. Lisons ensemble versets 1 à 5. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. J'ai intitulé cette section « L'âme assoiffée ». Le psalmiste ouvre sa complainte par une riche imagerie tirée de la faune du désert de Judée. Est-ce que peut-être vous vous souvenez d'une image utilisée dans le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger » et il conduit ses brebis vers des eaux tranquilles, n'est-ce pas? Et dans ce psaume, le cerf, lui aussi, est une créature vulnérable qui dépend des cours d'eau tranquilles, apaisés pour sa survie. Lorsque la sécheresse frappe, cet animal sauvage, désespéré, désire, soupire, languit après les courants d'eau. Le psalmiste écrit ainsi son âme desséchée, qui a été privée de la présence de Dieu. Son désespoir est si profond qu'il ne peut se résoudre à manger ou à dormir, mais il pleure jour et nuit. Comme si sa propre séparation de la présence de Dieu et du peuple de Dieu ne suffisait pas, le psalmiste doit supporter les moqueries de ses ennemis qui raillent contre lui en lui disant « Où est ton Dieu ?» Si Dieu est réel, pourquoi permet-il tant de souffrances dans ta vie? S'il est réel, pourquoi es-tu séparé de lui? Pourquoi persévérer dans ta foi, dans un Dieu qui semble t'avoir abandonné? Leur moquerie provoque un retour en arrière, dans lequel l'âme du psalmiste est submergée dans la tristesse, se souvenant des jours de jadis, où il faisait un pèlerinage, entouré d'une multitude de saints fidèles jusqu'au temple. Il chantait des chants d'adoration en chemin dans l'attente de la sainte fête qu'il célébrerait une fois arrivé à Jérusalem. Pouvez-vous le visualiser? Pouvez-vous imaginer les hommes, les femmes, les enfants qui chantent en chœur dans la joie, dans l'attente de la fête? Pouvez-vous envisager dans votre esprit la douce convivialité dont ils ont dû jouir, riant, jouant, racontant des histoires, se rappelant de la fidélité de Dieu envers leurs ancêtres? Cela a dû être extraordinaire, n'est-ce pas? En juin 2018, j'ai eu le privilège de participer à la conférence des femmes du Gospel Coalition à Indianapolis. Plusieurs milliers de femmes étaient là, venues de toute l'Amérique du Nord et du monde entier. Et elles se sont réunies pour écouter des orateurs et des oratrices de renommée mondiale. Et comme si cela ne suffisait pas, ma meilleure amie, Grace, qui vit à Chicago, a également participé à cette conférence. J'ai donc pu passer 3 merveilleux jour à rattraper le temps avec elle, tout en profitant des enseignements extraordinaires d'une manière vraiment palpable. C'était un avant-goût du ciel. Et l'une des principales raisons pour laquelle on n'a pas pu profiter autant de ces genres de réunions, évidemment, c'était la pandémie, n'est-ce pas? Et tout a été suspendu. Et c'était une longue période de sécheresse pour l'âme de beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Et pourtant, malgré les difficultés qu'on ait pu endurer, je doute que la plupart d'entre nous aient goûté à une telle souffrance à cause du confinement, avec les mêmes angoisses qui décrit le psalmiste. Mais pour certains, la période d'enfermement a pu entraîner ce niveau de misère. Pour certains, je pense aux personnes âgées qui ne pouvaient pas recevoir leurs petits-enfants, leurs enfants. Et je pense aux personnes fragiles et immunodéprimées qui étaient enfermées à l'intérieur pendant des mois. Et ils étaient incapables d'aller à l'église et de voir leurs êtres chers. Cela a dû être une saison si douloureuse pour beaucoup. La solitude, l'anxiété, la peur et l'incertitude étaient très réelles pour certaines, peut-être pour beaucoup d'entre nous-mêmes. J'ai rencontré une sœur âgée nommée Nicole qui a perdu son mari du COVID au tout début de la COVID, de la pandémie. Les infirmières ne voulaient même pas le toucher et s'approcher de lui. Tout le monde avait tellement peur, on se souvient, n'est-ce pas? Et il est mort seule, sans pouvoir parler avec sa famille. Elle n'a pas pu organiser les funérailles pour lui et elle est encore traumatisée par cette expérience et l'angoisse qu'elle a vécue. Donc, nous pouvons probablement tous imaginer à quel point ce serait dévastateur d'être coupé du peuple de Dieu pour une durée indéterminée. Et au XXIe siècle, nous avons deux avantages que le psalmiste, le fils de Corée, n'en avait pas. La première, c'est que nous avons la technologie qui nous a permis quand même de rester connectés malgré le confinement, n'est-ce pas? Ça ne remplace pas le face-à-face, mais quand même nous avons pu passer du temps entre frères et sœurs par Zoom, WhatsApp, whatever. Et deuxièmement, et plus important encore, nous avons le canon complet des Écritures à notre disposition, tandis qu'ils ne l'avaient pas. Donc on a deux avantages précieux. Nous avons vu jusqu'à présent l'âme assoiffée. Maintenant, au verset 6 à 9, nous découvrons l'âme déprimée. Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Nous voyons cette phrase centrale qui revient trois fois dans ces deux psaumes et forme une sorte de refrain. Pour certains, l'auteur peut sembler un peu fou ici parce qu'il se parle à lui-même. Pourtant, il n'est pas inhabituel dans les psaumes de se parler à soi-même. Car si vous connaissez le psaume 103, il dit « Bénis l'Éternel, mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. » Alors parfois, se parler à soi est le plus sage des moyens d'action, n'est-ce pas? Le malin nous chuchote tout le temps. Le système de ce monde maléfique cherche à nous presser dans son moule. Lorsque nous sentons que les épreuves de la vie et les railleries de nos ennemis nous poussent au désespoir, parler à notre âme est peut-être exactement ce dont nous avons le plus besoin. Au verset 7, l'auteur reconnaît une fois de plus qu'il est déprimé. Mais il ne lève pas les bras en signe de défaite. Non, il va jusqu'au bout. Il s'engage à louer pendant son séjour dans ce pays lointain. Dans le verset suivant, il semble qu'il utilise un procès littéraire que nous voyons Jésus employer dans son ministère sur terre. Il regarde autour de lui. Il se sert de la nature pour peindre un tableau de mots, comme le Jésus l'avait fait avec l'Élie des champs, n'est-ce pas? Depuis cette région montageuse proche de la Syrie, ce fils de Corée voit des ruisseaux profonds et des chutes d'eau en cascade qui semblent s'abattre directement sur lui, le submerger et l'emporter dans leur courant. Quel contraste entre ces eaux sauvages et les ruisseaux tranquilles et rafraîchissants auxquels il aspire au verset 2. Ce qui me fascine, c'est que malgré la lourdeur de sa détresse émotionnelle, il persévère dans la louange. Il réussit à voir au-delà du brouillard aveuglant de ses circonstances, jusqu'à la vérité immuable que l'Éternel est avec lui. Même dans les heures sombres de la nuit, où, si souvent, notre obscurité spirituelle reflète le monde qui nous entoure. Il nous donne un chant, une prière qui sert de rayon de lumière, brisant l'ombre qui nous entoure. N'est-ce pas glorieux? Depuis quelques années, je coach une femme leader au Québec nommée Elisabeth. Elle vient de traverser une période de dépression qui a nécessité une intervention médicale. Elle m'a donné la permission de partager son histoire d'ailleurs. Il ne s'agit pas simplement d'un cas de mélancolie, elle a récemment décrit les sentiments qu'elle éprouve comme une noyade. Elle a expliqué que si nous nous imaginons en train d'être dans l'océan, et certains d'entre nous n'auraient aucun problème à patauger dans les eaux. Mais pour certaines personnes, la dépression peut donner l'impression que les eaux montent au-dessus de notre cou et menacent de nous emporter avec la prochaine vague d'affliction. L'Éternel a béni cette génération avec le progrès médical qui a permis à des amis souffrant de dépression de garder la tête hors de l'eau. Il me semble que notre ami le fils de Corée aurait peut-être bénéficié d'une aide médicale au sein de son profonde affliction. Mais en absence de cela, dans le Proche-Orient ancien, il fait autre chose. Il parle à lui-même. Écoutez les paroles de Martin Lloyd-Jones à ce sujet. Avez-vous réalisé que la plupart de vos valeurs dans la vie sont dues au fait que vous vous écoutez au lieu de vous parler? Prenez les pensées qui vous viennent au moment où vous vous réveillez le matin. Vous n'êtes pas à l'origine, mais elles vous parlent, elles vous rappellent les problèmes de la veille, etc. Quelqu'un parle. Qui vous parle? C'est votre propre chair qui vous parle. Le raisonnement de cet homme dans le psaume 42 est le suivant. Au lieu de laisser ce soi lui parler, il commence à se parler à lui-même. « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme ?» demande-t-il. Son âme l'avait déprimé, l'avait écrasé. Alors il se lève et il dit, « Âme, écoute un instant, je vais te parler. » Traversez-vous aujourd'hui une période de profonde affliction de l'âme? Êtes-vous tenté d'abandonner Dieu parce que vous pensez que peut-être il vous a déjà abandonné? Si oui, vous n'êtes pas la seule. Le psalmiste est aussi prise avec ses craintes et ses doutes. Et ce remède est aussi le nôtre. Dites la vérité et faites taire les mensonges de l'ennemi, de votre propre esprit et de ce monde avec son système qui rejette Dieu. De plus, rassurez-vous en sachant que vous marchez dans les traces des hommes et des femmes de Dieu à travers les siècles qui ont souffert des épreuves similaires aux nôtres. Certains chrétiens pensent qu'il est infi d'être déprimé, que cela doit être dû à un péché non confessé. Point final. Mais c'est une possible explication, c'est possible. Mais nous vivons dans un monde déchu, dans lequel nos corps déchus souffrent toutes sortes de problèmes biochimiques et neurologiques qui n'ont rien à voir avec un péché personnel non confessé et qui peuvent provoquer une dépression. Et Dieu peut nous trouver dans cet endroit, non pas avec des paroles de jugement et de condamnation, mais avec des paroles d'amour et de compassion. N'abandonnez pas, mes sœurs, il ne vous abandonnera jamais. Puisque Dieu nous accorde sa grâce lorsque nos âmes sont abattues, espérons en lui en entendant son salut. Considérons maintenant les paroles du fils de Corée au verset 10 à 12, dans lesquelles son attention passe de l'intérieur vers l'extérieur, de sa propre peine à la pensée par rapport à ses persécuteurs. J'ai intitulé cette section « L'âme opprimée ». Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'abattu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Le psalmiste vient de déclarer au verset 9 que Dieu lui a donné un chant, une prière. Maintenant, au verset 10, Il nous donne le contenu de cette prière. Pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi dois-je me promener alors que mes ennemis m'oppriment? Attendez une minute. Quoi? A-t-il le droit de parler à Dieu comme ça? Apparemment, oui. Mais remarquez les premiers mots de sa prière. Je dis à Dieu mon rocher. Il est honnête, mais il reste révérencieux. La foi perdure malgré sa misère. Et pourquoi est-il si désespéré? Parce qu'en termes imagés, ses ennemis lui brisent les os. Les os désignent toute la structure humaine de la personne, c'est-à-dire la personne elle-même. Dire que ses os sont à l'agonie, c'est dire avec force que son corps est déchiré avec la douleur. Il se sent déjà malheureux. Il est déjà déprimé à cause du fait qu'il est loin de son pays, de sa vocation ministériale, du peuple de Dieu. Mais en plus de cela, il est obligé de supporter les moqueries des personnes cruelles dont les paroles résonnent dans son propre esprit. Mais une fois de plus, il reprend ce refrain que nous avons déjà vu au verset 6. Ce refrain qui dit à son âme de rejeter les accusations blasphématoires et d'espérer en Dieu, de rendre grâce à Dieu en attendant son salut, sa délivrance, car il a la certitude qu'elle s'en vient. Anne Vaskamp a relaté le récit suivant. Mon grand-père m'a raconté une histoire un jour qui est devenue une lumière. Une lumière qui débloque l'obscurité et nous libère vers le pays de 1000 soleils. Apparemment, il y avait un serpent tropical, plus long que la longueur d'un homme, qui avait grimpé sur le support d'une cabane dans la jungle et s'était glissé directement vers la cuisine d'une certaine femme. Elle s'est retournée et a brisé le jour d'un cri, a glacé le sang et s'est jeté dehors, les yeux écarquillés. C'est à ce moment-là qu'un voisin, armé d'une machette, est arrivé, entré dans la cuisine et tranché la tête de cette bête reptilienne. Ce qui est étrange, c'est que la neurologie et le flux sanguin d'un serpent sont telles qu'il continue à se déplacer sauvagement après avoir été décapité. Pendant des heures, cette femme est restée dehors à attendre. Et le corps du serpent continuait à se déchaîner, se coignant violentement contre toutes les fenêtres et les murs, détruisant les chaises et la table et tous les objets de la maison. Mon grand-père, dit-elle, s'est retourné pour le dire. Hey, je peux vous dire que ça ressemblait à une proclamation d'émancipation. Un serpent ne peut faire des ravages que jusqu'à qu'il accepte qu'il n'a plus de tête, qu'il est mort. L'ennemi de votre âme ne peut faire des ravages dans votre vie que jusqu'à que vous acceptiez qu'il est déjà mort et que vous êtes déjà libre. Acceptez ce que vous êtes déjà. Acceptez d'être libre parce que vous l'êtes déjà. Aucun ennemi ne peut vous emprisonner car votre Sauveur vous donne du pouvoir. Rien ne peut tenir en esclavage ce que Dieu a libéré et il nous tient dans ses bras. Puisque notre Dieu nous accorde sa grâce, lorsque nos âmes sont abattues, espérons en lui en attendant son salut. Qu'en est-il de nous? Continuons-nous à croire au mensonge de notre ennemi, ce serpent de jadis, même si notre Sauveur l'a vaincu à la croix de Calvaire? Lui permettons-nous de murmurer des menteries qui nous font douter de sa fidélité? Que le salut qui est notre en Christ nous pousse à chanter un chant de liberté dans la nuit sombre de l'âme. Notre ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Le secours s'en vient Et pendant que nous attendons, soyons réconfortés par la prière de ce saint d'autrefois. Il a eu l'audace d'exprimer ce qu'il pensait et ressentait vraiment. Avez-vous déjà ressenti le besoin d'aseptiser vos prières pour les rendre pieuses? Est-ce que vous les aspergez avec un peu de gel pour que personne ne reconnaisse pas le vrai état de votre cœur, comme on fait au supermarché quand on vient de toucher toutes les choses contaminées? Vous demandez-vous si vous pouvez vraiment dire au Seigneur la vérité de ce que vous ressentez sans qu'il se mette en colère, sans qu'il vous frappe de son courroux. Ma sœur bien-aimée, ce n'est pas le caractère de notre Dieu. Il accueille nos prières respectueuses, mais honnêtes. Et sachant qu'il sait déjà ce qui est dans notre cœur, alors ce n'est pas la peine de le lui cacher et d'appliquer du rouge à lèvres et du mascara sur un visage intérieur abattu, en pensant que nous pouvons le tromper. Puisque Dieu nous accorde sa grâce lorsque nos âmes sont abattues, espérons en lui en attendant son salut. Jusqu'à présent, nous avons vu comment le psaume 42, versets 1 à 5, décrit une âme assoiffée. Ensuite, dans la deuxième partie, nous voyons une âme déprimée et dans la troisième section, une âme opprimée. Maintenant, examinons le psaume 43, versets 1 à 3, où nous rencontrons une âme justifiée. Rends-moi justice, ô Dieu! Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Jusqu'à présent, l'auteur s'adresse à Dieu dans l'indicatif. Il décrit sa situation, mais maintenant il passe à l'impératif. Et pour celles qui sont bonnes à la grammaire, vous comprenez qu'il est en train de dire à Dieu d'agir. Il lui dit quoi faire. Rends-moi justice, combat pour moi, délivre-moi. Il y a un ton urgent dans sa déclaration. Il en a assez avec ses ennemis et il demande à Dieu d'agir contre eux. Ils sont impies, trompeurs, infidèle. Sa confiance dans le fait que Dieu veut et peut agir vient du fait qu'il est son refuge, son abri, sa forteresse, son bastion dans la montagne. Ses ennemis peuvent s'abattre sur lui comme des énormes rochers lors d'un éboulement. Mais il est en sécurité sous la protection de Dieu. Après avoir déclaré sa confiance en Dieu, il interroge à nouveau le Seigneur, comme il l'a fait au verset 10 du psaume 42. Mais cette fois-ci, il ne dit pas simplement que Dieu l'ignore. Il dit que Dieu l'a repoussé, qu'il l'a rejeté. Vraiment? Dieu a-t-il repoussé le psalmiste? Nous savons qu'il ne l'a pas fait. Mais il est facile pour lui de le supposer lorsque ses prières restent sans réponse. La réponse qu'il attend se trouve dans l'impératif suivant, dans le verset 3. Envoie ta lumière et ta fidélité. Dans ce verset, c'est comme s'il disait que la lumière et la fidélité me servent d'équipe de recherche et de sauvetage dans ce lieu d'exil. Et qu'il me précède dans mon voyage de retour à Jérusalem, vers ta sainte colline, vers le lieu où je jouirai à nouveau de la gloire de ta présence. Peux-tu les imaginer comme deux phares dans la nuit? J'ai vécu au Costa Rica pendant une période de mon enfance. Et chaque période de longues vacances, je partais avec ma mère et mon frère à la ferme de mon oncle, qui était dans la jungle, où il n'y avait ni électricité ni eau courante. Dionisio, le gardien de la ferme, a relaté une histoire la plus effrayante. Avant de travailler pour mon oncle, il avait travaillé dans une autre ferme et il a dû rester une nuit, un jour, plus long que d'habitude. Et sa femme et ses cinq jeunes enfants avaient désespérément besoin de lui Donc, il est parti tard, mais il fallait qu'il rentre. Il ne pouvait pas passer la nuit chez son patron. Le soleil se couchait lorsqu'il entama sa traversée dans la jungle pour se joindre à sa famille. Et il chercha dans son sac à dos sa lampe de poche pour découvrir que les piles ne marchaient plus. Il a à peine pu voir dans l'obscurité qui s'installait dans la jungle. Et au cas où vous ne le sauriez pas, une forêt tropicale est l'habitat de toutes sortes des ennemis de l'homme, comme les serpents, les scorpions, les pumas et d'autres créatures terrifiantes qui prennent vie la nuit. Le danger qui guette Dionysio n'est pas le fruit de son imagination, mais cet homme était chrétien. Il est un homme de Dieu et il a une foi profonde. Et il me raconte que dans l'obscurité, il demande à Dieu d'envoyer sa lumière pour le guider. Le voyage qui devrait avoir pris 30 minutes lui prend 1h30, alors qu'il marche dans l'ombre qui l'engloutit dans la forêt tropicale. Par moments, la lumière de la lune perce à travers l'obscurité et lui montre le chemin. Et enfin, le Seigneur le ramène sain et sauf à la maison où sa femme et ses enfants l'attendent avec les bras grands ouverts. Pouvez-vous vous identifier à Dionysio lors de cette sombre et effrayante nuit, cette expédition dans la jungle? Avez-vous déjà vécu des moments aussi épais d'obscurité dans laquelle les ennemis semblaient vous entourer, dans laquelle votre seul secours était la lumière et la vérité de notre Dieu? Le psalmiste l'a certainement fait. Et de nombreux saints à travers l'histoire ont aussi vécu de telles épreuves. L'invitation que ce psaume nous adresse est simple. Dans ces versets, c'est « crier à Dieu ». Il nous donne la permission d'utiliser un langage fort. « Rends-moi justice, défends ma cause, délivre-moi, envoie ta lumière et ta justice et ta vérité ». Ce n'est pas du plaisir de copier et coller ce vocabulaire et l'être employé dans nos propres moments de souffrance. Mais qu'en est-il de ce va-et-vient du psalmiste entre croyance et questionnement? Avez-vous parfois l'impression qu'il est hypocrite parce qu'il maintient en tension à la fois la foi et le doute? Pensez-vous qu'un croyant ne devrait jamais lutter ou remettre Dieu en question? Ce n'est tout simplement pas le témoignage de l'Écriture. Le psalmiste affirme avec confiance que Dieu est son seul refuge une minute, puis il accuse Dieu de le rejeter une autre minute. Qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme? Absolument rien. Il est sûr de Dieu, mais il a été malmené par la vie. La réalité est que vivre dans la lumière de Dieu et chérir sa vérité est le véritable moyen de traverser les difficultés, les ténèbres qui parfois nous entourent pour obtenir un résultat béni. Puisque Dieu nous accorde sa grâce lorsque nos âmes sont abattues, espérons en lui en attendant son salut. Le périple par le champ de notre ami fils de Corée touche à sa fin. Lisons les versets 4 à 5 pour découvrir comment se termine son histoire. J'ai intitulé cette section « L'âme joyeuse ». J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Dans ces derniers mots, le psalmiste déclare par la foi ce qui n'est pas encore. Il conclut par l'espérance au milieu de ses lamentations. La foi triomphe. Les ténèbres font place à la lumière, car la lumière du soleil de la présence de Dieu perce les nuages des ténèbres qui s'étaient installés sur l'âme du psalmiste auparavant. Sa foi est si grande qu'il a une joie préemptive.
avant même que sa délivrance n'arrive, il extasie de joie déjà. Donc il répète le nom de Dieu 4 fois dans un seul verset. Son affection et son plaisir en Dieu sont si grands qu'il ne peut s'empêcher de prononcer son nom. Un peu comme un amoureux qui nomme sa bien-aimée encore et encore en lui déclarant son amour. Avec une telle espérance, la répétition finale du refrain « Pourquoi t'as-tu mon âme ?» a un ton résolument positif. Il n'y a aucune raison pour son âme pour qu'elle soit troublée. Le secours s'en vient. Maintenant, en guise de conclusion, j'aimerais vous bâtir un pont entre ce texte de l'Ancien Testament et l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en Luc 24, Jésus rencontre ses disciples après sa résurrection et il leur dit ceci. « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Christ et sa croix sont le centre de la révélation divine et tout l'Ancien Testament murmure son nom. Donc, si je me demandais quand ces psaumes nous parlent de Christ, je dirais qu'une possibilité et que je vois est une progression dans l'action qui est parallèle à celle de Christ pendant la semaine de sa passion. Avec le verset 5, nous voyons que lorsque le psalmiste décrit sa procession jubilatoire vers le temple de Dieu, entouré d'une foule d'adorateurs, cela nous rappelle le dimanche des Rameaux, lorsque les pèlerins de la Pâque accueillent le roi. Puis dans le refrain répété, « Pourquoi t'as battu mon âme ?» nous entendons des échos des paroles de Christ la veille de sa crucifixion. Au jardin de Gethsémané, lorsque sa propre âme est angoissée à l'idée d'être séparée du Père, tout en portant nos péchés sur lui. De nouveau, au verset 11, j'entends un troisième écho de la semaine de la passion de Jésus, dans les paroles des moqueurs, « Où est ton Dieu ?» Cela me ressemble-t-elle pas aux insultes lancé à notre Sauveur lorsqu'il est suspendu entre le ciel et la terre à notre place. Et enfin, je vois dans le psaume 43, verset 4, la joie extatique que Christ goûte lorsqu'il triomphe du tombeau et il monte au ciel à la droite du Père. Après tout, Hébreux 12:2 nous dit « Pour la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Dans la nuit du 24 au 25 avril, dans l'année 387, Augustin a été baptisé par l'évêque Ambroise dans la cathédrale de Milan. Le texte, cette nuit-là, était le psaume 42 et 43. Avec ces images d'eau et de désaltération divine, il était tout à fait adapté à l'occasion. La vie dépend de Dieu, tout comme la vie dépend de l'eau. Augustin a dit, « La pensée de Dieu remue l'être humain si profondément qu'il ne peut être satisfait que s'il te loue, parce que tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. As-tu soif du Dieu vivant ? Viens à ses pieds ce matin et trouve ce dont ton âme a le plus besoin. Si tu es ici aujourd'hui et tu n'as pas encore mis ta confiance dans celui qui est ton secours, je t'invite à le faire avant de partir aujourd'hui. Puisque Dieu nous accorde sa grâce lorsque nos âmes sont abattues, espérons en lui en attendant son salut. Amen.